Et c'est tout de suite cette émission Un moment pour la Terre avec France Nature Environnement. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour cette émission aujourd'hui Françoise Tellier et Gilbert Ferraud, tous les deux, j'imagine, membres de France Nature Environnement. Et ils vont nous parler de chauffage solaire. Bonjour Françoise, bonjour, et bonjour Gilbert.
Bonjour.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous éclairer sur ce qu'est l'énergie solaire thermique et surtout de son utilisation, de ses avantages, ses inconvénients et les perspectives et les projets à l'heure actuelle. L'énergie solaire thermique est une énergie renouvelable consistant à produire de la chaleur ou de l'eau chaude à partir de capteurs solaires. Elle se distingue du solaire photovoltaïque qui produit de l'électricité à partir du rayonnement solaire. Les installations de panneaux solaires photovoltaïques convertissent la lumière du soleil en électricité grâce aux cellules photovoltaïques. Cette énergie permet de produire de l'électricité à partir du rayonnement, qui est l'ensemble des ondes électromagnétiques émises par le soleil. La conversion directe de l'énergie solaire en électricité se fait par l'intermédiaire d'un matériau semi-conducteur comme le silicium. Autre différence, le solaire photovoltaïque valorise 20 à 30% de l'énergie reçue, alors que les panneaux thermiques récupèrent plus de 60% de l'énergie solaire. Parmi les usages de toute l'énergie fonctionnée sur la planète, 29% est à destination du chauffage et de l'eau chaude sanitaire, alors que l'agriculture ne compte que pour 2%. Nous dépensons 15 fois plus pour nous chauffer que pour nous nourrir. Il y a donc énormément à gagner à s'intéresser sérieusement au chauffage solaire thermique, surtout que, à l'heure actuelle, 8 millions de Français ont des difficultés pour se chauffer. Donc, dans un habitat, 80% d'énergie est consommée par le chauffage et l'eau chaude. L'enjeu, le coût de l'électricité a augmenté de 25% en 3 ans et à l'heure actuelle, le gaz aussi l'a fait un sacré bond et nous allons vers une augmentation probablement encore plus forte du prix de l'énergie, mais surtout les conséquences aussi écologiques dues au pétrole, au gaz et au nucléaire. Il est donc majeur de consommer moins d'énergie, mais aussi de consommer de l'énergie bon marché et renouvelable, le solaire. Thermique paraît une source d'énergie qui doit monter en puissance. La filière de l'énergie solaire en Europe a été pionnière au niveau mondial, mais connaît un net ralentissement sous l'effet de la crise et de problèmes d'intégration qui n'avaient pas été insuffisamment anticipés. Dans le solaire thermique, le marché européen recule d'année en année depuis le pic atteint en 2008. L'Allemagne est largement en tête en termes de puissance installée avec 37,8% du total européen en 2017, mais en puissance par habitant, elle n'est qu'au cinquième rang européen, derrière Chypre, l'Autriche, la Grèce et le Danemark. En 2017, l'Europe représentait 7,1% du total mondial, loin derrière la Chine qui représente 69%, mais par habitant en 2015, les trois premiers pays européens sont devant la Chine qui est au septième rang mondial. L'Europe a dépassé la barre des 3 millions de capteurs solaires. Malgré tout, la France est quand même l'un des pays européens les plus favorisés pour son ensoleillement et reste à la traîne au vu de l'indice du parc solaire installé pour 1000 habitants, c'est-à-dire 18,5 mètres carrés, à comparer à l'Autriche avec 343 mètres carrés, soit 18 fois plus, et Chypre, 730 mètres carrés, soit 40 fois plus. Le solaire thermique est l'énergie renouvelable qui nécessite le moins de technologie et par conséquent est la plus accessible aux citoyens moyens pour son habitat individuel. Une installation solaire thermique travaille dans les basses températures inférieures à 60 degrés. La rusticité de tels systèmes permet de les rendre accessibles à tous grâce aux possibilités de l'autoconstruction ou de l'auto-installation. Pour donner une idée, dans notre département, l'ensoleillement est de l'ordre de 2600 heures par an, ce qui revient à environ 7 heures par jour en moyenne. Et donc, dans le sud-est, la période les plus froides sont les plus ensoleillées, dues aux hautes pressions et au mistral, et les conditions y sont idéales pour se chauffer avec le soleil. On va faire une pause musicale, et après, je laisserai la parole à Gilbert, qui nous parlera des capteurs solaires thermiques.
grandis trop vite. Dans un monde en super plastique, je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires de Jeff et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. J'ai du soleil dans ma mémoire, j'ai du soleil, j'ai du soleil. Devenir Monte Cristo, au clair de lune échapper la citadelle. Je veux devenir roi des marécages, sortir de ma cage, un Père Noël pour Cendrillon sans escarpins. Joli soleil, joli soleil.
Et à propos de soleil, donc vous êtes avec France Nature Environnement, Françoise Tellier, donc qui poursuit sur l'énergie solaire. Françoise Tellier et bien sûr Gilbert Ferraud, que l'on entendra dans un instant.
Donc je veux du soleil, et bien aujourd'hui on en a du soleil, il fait beau. Nous habitons dans une région où effectivement ce soleil est très présent. C'est pour cela qu'on a provoqué cette émission sur ce sujet-là, parce que bon, moi en particulier, c'est pour ça que j'ai tenu à partager un témoignage, hein, parce que j'ai auto-construit une installation de solaire. Et donc,
pour vous ?
C'est pour nous, chez nous. Et donc j'ai eu envie de partager cette expérience parce qu'on est vraiment très enthousiaste sur cette installation de chauffage. Bon, mais avant, je voudrais un peu parler de en quoi consistent ces installations de chauffage solaire. Alors, le principe de fonctionnement, il est très simple. Le rayonnement solaire est capté par une surface absorbante et l'énergie lumineuse, elle est transformée en chaleur. Et cette chaleur est transmise à un liquide qui circule et qui capte cette chaleur. Et ce liquide est ensuite transporté vers l'élément chauffant de la maison, qui est soit un chauffe-eau, soit un plancher chauffant. Alors, ces capteurs, alors je dirais capteurs ou je dirais panneaux, hein, différemment, on appelle ça de ces deux manières. Donc, ces capteurs solaires, donc, qui sont le premier élément dans la chaîne, hein, consistent donc à capter cette chaleur du soleil. Il est composé de choses suivantes. Hein. On a d'abord un absorbant, qui est composé de nombreux tubes qui sont généralement en cuivre et qui sont disposés verticalement et qui sont soudés à une plaque qui récolte les rayonnements solaires. Hein. Cette plaque, elle est généralement en aluminium. Alors pourquoi je donne les noms des matériaux ? C'est parce que, vous verrez, c'est important parce que ce sont des matériaux qui se recyclent facilement. Et donc, c'est quelque chose qui est simple.
Est-ce que c'est la même chose que le photovoltaïque ?
Alors, le photovoltaïque, sert à fabriquer de l'électricité.
Oui.
Alors que là, on capte de la chaleur. Et c'est la chaleur qui est transmise à la maison. Le photovoltaïque sert à faire de l'électricité.
D'accord.
Alors on verra tout à l'heure que votre question est pertinente parce qu'on verra tout à l'heure qu'il existe aussi des panneaux solaires qui sont mixtes, qui permettent à la fois de fabriquer de l'électricité et de capter de la chaleur.
Hein, voilà, ce sont parce que comment, enfin aussi, c'est peut-être pas évident non plus dans un pays très ensoleillé, enfin d'une région très ensoleillée, est-ce qu'il n'y a pas d'avoir trop de chaleur? Comment on régule
votre,
ça?
Votre question est excellente aussi. J'en parlerai tout à l'heure si
d'accord,
vous voulez bien.
Hein, d'accord, je vous laisse poursuivre.
Parce qu'effectivement, on a des contrastes de température, on a des besoins de chauffage, et mm-hmm. puis il y a des périodes où on n'en a pas besoin. Mais oui. ça, c'est important, parce que mm-hmm. vous verrez pourquoi tout à l'heure. Donc, on a parlé de l'absorbant. Et ensuite, il y a quoi? Il y a une vitre. Hein, une vitre qui est, qui est en surface pour permettre aux rayons solaires de pénétrer dans le système et de chauffer le métal dont on a parlé tout à l'heure. Donc on a une sorte de système par effet de serre, c'est-à-dire qu'on a une vitre, on a l'élément qui chauffe, et puis dessous on a un isolant qui permet à la chaleur de ne pas s'en aller. Alors tout ça c'est très simple. Et il y a un fluide qui circule dans le circuit, qui est soit de l'eau, mais ici, il vaut mieux pas mettre de l'eau parce qu'il fait froid l'hiver, et donc la nuit, ça risquerait de geler. Donc là où j'habite, il peut faire encore maintenant, malgré le réchauffement climatique, il peut faire du moins 15 degrés. J'habite autour de Barème, et donc du moins 15 degrés, ça ne fait pas un pli au niveau du gel. Voilà, donc on fait passer du glycol, qui est tout simplement un liquide. C'est celui qu'on utilise dans les voitures pour refroidir les moteurs. Hein. Donc c'est des choses qui sont très simples. En ce qui concerne ces capteurs, donc la surface de ces capteurs, ce qu'on donne généralement, c'est 1 mètre carré pour 1000 kW. C'est-à-dire que pour une maison de 120 mètres carrés, il faut à peu près 10 mètres carrés de panneaux. Ça revient au niveau du rendement de ces capteurs. On capte en moyenne autour de l'équivalent de 40 litres de fuel par mètre carré de capteur. Hein, donc c'est quand même pas négligeable, ça veut dire que pour oui, 40, l'équivalent 40 litres de fuel par mètre carré de capteur. Ça veut dire que si on a 20 mètres carrés de capteur, ce qui est une surface moyenne, ça équivaut à utiliser pour se chauffer 800 litres de fuel. D'accord ? Mais le fuel, bien sûr, on n'en parlera plus, mais enfin, ça donne une idée. Alors, au niveau du recyclage, donc j'ai parlé des matériaux, c'est important parce que ce recyclage est très facile. On recycle les capteurs solaires à 80%. Hein, pourquoi ? Parce que c'est fait de verre, c'est fait de cuivre, c'est fait d'aluminium, essentiellement. Alors ça, c'est des capteurs qui sont très simples. Ce sont les plus simples, ceux que j'ai utilisés moi, chez moi. Il existe d'autres types de capteurs. Par exemple, des capteurs qui sont sous vide et qui permettent d'obtenir des températures qui sont plus grandes parce que le système est beaucoup plus performant. Ces capteurs se développent actuellement, mais ils sont plus fragiles, ils sont plus chers, ils sont plus fragiles, mais ils sont plus performants, on obtient des températures qui sont plus hautes. Et en plus, le gros avantage, c'est que donc, c'est constitué de tubes sous vide. Et comme ce sont des tubes, les rayons solaires n'ont pas besoin d'être perpendiculaires. Ils peuvent être, quand ils sont sur les côtés, ça chauffe autant que quand ils sont devant, puisque ce sont des tubes.
La durée de vie, en général, elle est de 20 à 25 ans et apparemment, les nouveaux panneaux peuvent aller jusqu'à 30 ans. Et il faut savoir que les panneaux solaires sont recyclés dorénavant en France et c'est une entreprise qui s'appelle PV Cycle. Et donc, il faut prévoir dès l'installation le recyclage de façon à être sûr que ça sera fait dans de bonnes conditions. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Alors, je reviens sur la question tout à l'heure qui a été posée par Odile, hein, c'est ça hein?
Oui, c'est ça.
sur les périodes chaudes. Donc ça, c'est important. Alors, moi j'ai une approche aujourd'hui là, hein, qui est pratique. C'est-à-dire, mon but, c'est d'essayer de convaincre les gens, de leur faire comprendre que c'est quelque chose de vraiment important et facile à faire, facile à établir. Donc, si je rentre dans des petits détails, mais
c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de technicien, on peut soi-même faire.
Je l'ai fait alors d'accord. que je suis pas plombier, je suis pas chauffagiste, mm-hmm. je suis bricoleur, peut-être un bon bricoleur, mais c'est tout. Hein, donc toute personne intéressée par cette affaire-là et motivée peut se construire ce genre de système. C'est ça d'accord. qui est important. Donc c'est pour ça que je donne quelques détails parce que et en particulier donc la question d'Odile c'est tout à l'heure qu'est-ce qu'on fait de cette chaleur qui est produite l'été oui. on n'en a pas besoin déjà mm-hmm. on en a besoin pour le chauffe-eau hein, parce qu'on a besoin d'eau chaude quand même l'été mm-hmm. On a besoin d'utiliser cette eau chaude pour son lave-linge. Donc on peut tout à fait brancher son lave-linge. Il existe maintenant des modèles de lave-linge avec une entrée d'eau chaude. Et c'est considérable, parce que les résistances pour chauffer le lave-linge, c'est pas négligeable. Hein. C'est une énergie électrique qui n'est pas négligeable. Donc il faut le savoir. Hein. Et donc, si cette eau chaude est produite par le soleil, ben c'est toujours ça, c'est ça de gagner, c'est important. Donc, l'été, qu'est-ce qu'on fait ? On couvre les panneaux, tout simplement. On cache la surface. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas les mettre sur le toit, mais les mettre à côté de la maison, pour pouvoir facilement aller les couvrir avec du canis, avec ce qu'on veut. Hein. Voilà. Hein. Donc, ça, c'est une remarque qui n'est pas négligeable. Alors, là, je vais raconter mon histoire brièvement. Hein. J'ai un retour d'expérience de maintenant 8 ans sur une installation que j'ai fabriquée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je devais refaire mon garage et le transformer en cuisine. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis posé la question, j'ai dit, mais c'est un peu dommage, quoi. Quand même, c'est une région qui est assez froide l'hiver. Et est-ce que je devais refaire le plancher ? Je me suis dit, est-ce que je peux chauffer ma maison, chauffer mon plancher avec du soleil. Et j'avais un ami qui je lui demandais de venir, qui était compétent, qui s'appelle Pierre Amé, pour ne pas le citer. Et donc, il m'a dit, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Peu de personnes sont au courant de ça. Il y a beaucoup même de chauffagistes qui prétendent le contraire, mais ce n'est pas vrai. On peut chauffer un plancher chauffant avec le soleil. Et donc, je me suis embarqué dans cette aventure et j'ai fait passer des tubes dans le plancher en béton que j'ai fait, puisque je suis au rez-de-chaussée. Et j'ai installé des panneaux solaires et voilà. Et j'ai acheté un chauffe-eau, 300 litres, parce qu'il vaut mieux avoir une réserve d'eau chaude importante, parce qu'il y a quand même quelques journées où il n'y a pas de soleil. Ça existe chez nous aussi.
Un petit peu, oui.
Hein, voilà. Et donc, 300 litres, c'est quand même un minimum. Et je me suis lancé là-dedans. J'ai installé mes panneaux plein sud, évidemment. J'ai calculé l'angle, qui est de 60 degrés, pour que les rayons solaires soient bien perpendiculaires à la surface des panneaux en plein hiver. Et donc, j'ai calculé ça. Et le 21 décembre, par exemple, j'ai 6h30 de soleil. Alors, il semble que ça ne soit pas beaucoup, mais ça suffit largement. Hein. Voilà. Et voilà. Donc, quand j'ai fait ça dans ma cuisine... Et on était tellement contents qu'on s'est dit, on ne peut pas s'arrêter là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a décidé de faire ça dans le séjour. Mais on habite dans la maison. Donc, c'était quand même une décision pas facile à prendre parce qu'il fallait refaire le plancher du séjour. Alors, on l'a quand même fait. C'est-à-dire qu'on a condamné ce séjour pendant un certain temps. On a défoncé le plancher sur 30 cm avec le marteau-piqueur. Bon, vous imaginez le chantier. Et on a donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un plancher très épais en béton. Pourquoi très épais ? C'est pour avoir de l'inertie thermique, c'est-à-dire pour pouvoir stocker cette chaleur. Parce que le problème de beaucoup d'îles d'énergie, c'est le stockage. On connaît ce problème pour l'électricité. Eh bien, pour le solaire, c'est le même problème. Il faut stocker. Et donc, pour stocker, il y a deux manières de faire. Soit... on a une grande réserve d'eau, c'est dans des gros réservoirs entre 500 litres et 5000 litres. Ça coûte un peu cher, ça prend de la place. Et moi, j'ai décidé de jouer sur l'épaisseur du plancher. Donc, j'ai fait 20 cm d'épaisseur de béton. Et ça me permet d'avoir de la chaleur pendant 2 ou 3 jours s'il n'y a plus de soleil. Voilà. Et donc, on a obtenu un système dont on est vraiment, vraiment satisfait. La plupart des gens, y compris les chauffagistes, et même quand vous allez sur Internet, on vous dit que le chauffage solaire, c'est un chauffage d'appoint. Eh bien, pour moi, ce n'est pas un chauffage d'appoint, c'est le chauffage principal. Et ça, c'est important. Et mon chauffage d'appoint, c'est mon poêle à bois. Et j'ai diminué ma consommation de bois d'un facteur 5. C'est-à-dire que ce matin, il faisait moins 1 quand je suis parti de chez moi. Eh bien, il fait tous les jours, il fait 0, moins 1, moins 2 le matin. Mais bon, on a du soleil en ce moment. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Donc, pour mon poêle à bois, je l'utilise soit pas du tout, le soir, soit je mets une bûche. Hier soir, j'ai mis une bûche de pain, ce qui n'est pas excellent comme bois, comme chacun sait. Et ce matin, j'avais 21 degrés dans mon séjour et ma cuisine. Donc voilà. Donc on est complètement enthousiaste sur cette affaire-là. Et avec ma femme, on se demande souvent, mais pourquoi ce système de chauffage n'est pas généralisé ? Et parce que
c'est, alors bon, pourquoi ?
Alors pourquoi ? Eh bien, je n'ai pas la réponse. voilà. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
Alors, peut-être cher à l'installation, alors, la durée de vie, 25 à 30 ans, ça veut dire qu'il faut tout recommencer quand on s'équipe jeune.
Alors, cher. Alors, moi, ça m'a coûté 8000 euros.
Oui.
D'accord. Si on le fait faire pour une maison, moi j'ai deux fois 90 mètres carrés avec un étage et un rez-de-chaussée, hein, donc ça fait 180 mètres carrés. Donc je chauffe la cuisine, le séjour et la salle de bain, dont je n'ai pas parlé, qui est à l'étage. J'ai quand même mis des tubes chauffants dans le plancher de la salle de bain. Si on le fait faire, ça coûte entre 16 000 et 20 000 euros, si on le fait faire, voilà. Mais n'importe quel bricoleur peut faire ça. Alors, pour une maison déjà construite en rénovation, évidemment, c'est un peu lourd. Par contre, quand on fait une maison, quand on fabrique une maison, c'est rien du tout de faire passer des tubes dans le plancher. Ça coûte pas plus cher, enfin, très peu plus cher, c'est complètement négligeable.
Et il n'y a pas d'aide de l'État par rapport à ça ?
Oui, il y a des aides dont Françoise peut nous parler.
En fait, oui, il y a des aides. Il y a d'abord une réglementation. En fait, depuis des dizaines d'années, pour la construction de tout bâtiment, l'État impose des règles strictes à respecter pour réduire la consommation d'énergie et améliorer l'isolation. La dernière en date, c'était la réglementation thermique de 2012, la RT 2012 que beaucoup connaissent, est en passe d'être modifiée. Ça sera la réglementation environnementale 2020, c'est-à-dire la RE 2020, vous en entendrez parler, fera suite à la RT 2012. Et pour tous les permis de construction, les permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2022, eh bien, il faudra qu'ils soient y faire référence. Bon, cette réglementation a été reculée pour des raisons diverses, et en particulier à cause de la crise Covid, mais ça, bon, c'est aléatoire. Il s'agit d'une nouvelle étape vers une réglementation environnementale des bâtiments neufs, plus ambitieuse contre le changement climatique. Une réglementation pour des bâtiments bas carbone qui promeut la diversité des modes de constructif et la mixité des matériaux. L'objectif, c'est de réduire l'impact carbone, hein, c'est sûr. Et il faut surtout encourager des modes constructifs qui émettent peu de gaz à effet de serre en prenant une conception dans le choix des matériaux et des équipements. Et surtout, en particulier, encourager les matériaux biosourcés et le bois qui est considéré comme capable de stocker le CO2. Ce qui est aussi important par rapport à la RT 2012, c'est que là, il y a un objectif de garantir le confort d'été pour les occupants. Parce que les logements seront adaptés aux changements, aux conditions climatiques futures en introduisant un objectif de confort d'été, indicateur de degrés heure. Les bâtiments devront mieux résister aux épisodes de canicule qui seront plus fréquents et intenses du fait du changement climatique. Et ça, c'est un ajustement vis-à-vis de la RT 2012 qui pouvait engendrer des logements inconfortables en cas de forte chaleur. Donc les solutions de climatisation dites passives seront encouragées. Donc ça, c'est, disons qu'on vous laissera un certain nombre de liens sur le site de Fréquence Mitral pour avoir un certain nombre de renseignements. Donc, question subvention, il y a ce qu'on appelle le fonds chaleur créé par l'ADEME. L'objectif, c'était surtout de soutenir les maîtres d'ouvrage dans leurs projets de production de chaleur et de froid en proposant un accompagnement des financements sur le coût de l'installation des études de faisabilité et de conseils. Donc les moyens, il y a une enveloppe près de 1 milliard d'euros sur la période 2020-2022 qui a été allouée par l'État. Les actions de l'ADEME, elles concernent surtout les applications dans le secteur du bâtiment et la production d'eau chaude sur le plan de la diffusion, de la certification et du soutien aux activités de recherche et développement. L'aide aux opérations dans le bâtiment pour la production d'eau chaude se fait par l'intermédiaire donc du fonds chaleur. Les conditions d'éligibilité sont la remise d'une étude de faisabilité par un bureau d'études, sachant des capteurs certifiés et un schéma hydraulique conforme. Depuis 2015, l'ADEME a lancé un appel à projet grande installation solaire thermique qui permet de sélectionner les projets les plus pertinents sur réseau chaleur et en industrie de plus de 300 mètres carrés. Donc les coûts de production en énergie renouvelable et les économies engendrées sont les plus compétitifs. Donc c'est surtout aussi la vocation du fonds chaleur et d'encourager le remplacement d'installations consommant des énergies fossiles par la mise en place des équipements de production de chaleur et de froid renouvelables, soit en utilisant la biomasse, la géothermie, le solaire, le biogaz et les énergies de récupération couplées à des réseaux de chaleur et de froid. Il est destiné à l'habitat collectif et aux collectivités et aux entreprises. Il y a par ailleurs un crédit d'impôt pour le chauffe-eau solaire. En allégeant le poids fiscal des travaux, il s'agit d'une aide financière proposée par l'État afin de promouvoir des économies d'énergie auprès des ménages. Donc il existait, parce que je dis bien il existait, parce que depuis le 1er janvier, ça a été modifié, il existait le crédit d'impôt transition énergétique qui s'appelait CITE. Et depuis, donc, ça s'est transformé à partir de 2021 en la MaPrimeRénov, qui est un dispositif d'aide à l'investissement dans l'énergie solaire thermique et est ouvert à tous, propriétaires, occupants, bailleurs, copropriétaires, quel que soit le niveau de revenu. Il remplace donc le CITE et à partir du 1er janvier 2021. Donc cette prime est dédiée aux travaux de rénovation énergétique. Elle est réservée, comme je vous disais, elle est réservée aux propriétaires, occupants, bailleurs, copropriétaires. Et mais le niveau de cette prime dépend du profil de revenu. Voilà. Donc, est-ce que tu abordes le sujet des...
Oui. J'aurais juste un complément à faire, parce que oui. J'ai oublié deux choses. Hein.
Oui.
L'une, c'est que l'avantage de ce type de chauffage solaire, c'est que lorsqu'on quitte son logement, par exemple, pour partir en vacances, ou si c'est une résidence secondaire, quand on revient dans la maison, elle est chaude. Hein? Et ça, c'est pas négligeable, parce que... moi, je me souviens être rentré, quand on revient dans notre maison, en plein hiver, la maison, elle est à 4, 5, 6 degrés. Alors, c'est dur à chauffer, ça est un peu long. Et maintenant, la maison, elle est à 13, 14, 15 degrés. Ça change tout. Hein. Et c'est de 15 degrés pour monter à 21, c'est vite fait. Hein. Alors, voilà. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que pour les personnes qui sont partantes pour autoconstruire leur système, moi, je suggère deux choses. D'aller consulter un site qui est très bien fait, qui s'appelle Aper Solaire, Aper, A2PER, Solaire, c'est un site qui donne des informations pratiques et qui permet d'échanger avec des gens qui ont eu des expériences. Ça fonctionne bien et c'est vraiment très utile. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le plancher chauffant, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est bien parce que quand on est dans les pieds au chaud, on a chaud. Et on se sent bien. C'est pour ça que j'ai choisi Feeling Good.
Ah, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you
know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Est-ce qu'on va se feeling good avec le chauffage solaire ou en étant avec la recherche ?
Cette énergie va voir des progrès fantastiques dans l'avenir. Et imaginons toute la science qui a été développée pour le nucléaire depuis des décennies. Si on avait utilisé cette matière grise, toute cette énergie et tout cet argent pour ce genre d'énergie renouvelable, hein, le chauffage solaire et d'autres, on n'en serait pas où on en est maintenant, avec des déchets nucléaires dont on ne sait vraiment pas quoi faire et dont on n'est pas sorti, hein, et dont on parle maintenant qu'on va, en France, qu'on va encore développer ça.
Ça fait peur quand même.
Ça fait peur, mais donc, oui. On est dans une impasse.
On parle d'une énergie propre alors que...
on parle d'une énergie propre alors que c'est terrible. Quoi.
Ouais.
Et donc c'est un manque d'anticipation extraordinaire de gouvernants successifs. Mm-hmm. Hein, c'est terrible. Donc il y a des projets qui sont en cours et il faudrait vraiment mettre le paquet, si je peux m'exprimer ainsi, pour faire évoluer cette technologie. Et Françoise va nous dire...
Alors moi, je voudrais essayer quand même de vous éclairer quand même sur un pan de la recherche qui a lieu sur Cadarache, parce qu'en fait, sur Cadarache, la direction de la recherche technologique et des sciences du vivant a créé ce qu'on appelle la Cité des énergies. Donc, ils ont pour but d'améliorer les rendements et la qualification des modules photovoltaïques. Ils ont aussi la qualification des systèmes thermiques et thermodynamiques électriques, alimentation du réseau et dessalement ou production. Et surtout, ils font des recherches sur l'habitat du type méditerranéen le plus écologique possible. Ils ont aussi, avec l'INES, c'est l'Institut National de l'Énergie Solaire, ils ont implanté 1000 m² de miroirs avec un système aubané qui concentre les rayons du soleil. Et ils arrivent à obtenir jusqu'à 350 ou 400 degrés pour ce fluide caloporteur et qui permet d'alimenter des procédés industriels en chaleur ou en actionnant une turbine de façon à produire de l'électricité jusqu'à 50 kWh. Le rendement est d'environ 18%. Certes que ce n'est pas énorme, mais il y a quand même beaucoup de recherches de fait sur ce domaine. Et c'est vrai que Cadarache est un centre de recherche avant tout, et ça ne concerne pas que le nucléaire, ça concerne ce qu'on appelle les énergies alternatives. Voilà. Donc on va peut-être aborder la conclusion et les avantages de réseau chaleur. Ben, ils sont nombreux. Ils sont à la fois économiques et écologiques. Le rendement est élevé puisqu'il est de l'ordre de 45% dans les zones ensoleillées. Ce sera une solution car dans les années à venir, le fioul et le gaz vont être interdits dans le cadre de la transition énergétique. Cependant, ils ont quand même des inconvénients principaux. Ils nécessitent un investissement quand même important. Ils nécessitent en effet de grandes structures de stockage de l'eau chaude, ainsi qu'un moyen de production de chaleur de substitution dans certaines régions. Parce qu'en fait, c'est comme disait tout à l'heure Gilbert, c'est vrai qu'il y a une certaine inertie, mais il y a quand même besoin, pour ce qui concerne l'eau chaude, pas forcément pour le chauffage, mais pour ce qui concerne l'eau chaude, oui. Donc, est-ce que là, on peut dire que la chaleur, c'est renouvelable, c'est profitable, hein ? C'est une opportunité pour avoir une énergie décentralisée et de s'affranchir de la fluctuation des coûts d'énergie fossile. C'est aussi par la maîtrise, c'est un gage d'indépendance par la maîtrise de l'approvisionnement et de la production. Profitable pour les entreprises et les collectivités par des aides aux études et aux conseils ainsi qu'une aide à l'investissement. C'est profitable pour la transition énergétique, le recours aux énergies renouvelables permet une réduction des émissions de gaz à effet de serre, en particulier le CO2 et le méthane. Et puis c'est aussi pour lutter contre la précarité énergétique grâce à une chaleur compétitive et en valorisant les ressources énergétiques locales et en créant de la valeur sur le territoire. Donc, je te laisse éventuellement compléter si tu vois quelque chose à rajouter.
Oui, ce que je voudrais dire, c'est que bon, moi, je suis tout disposé, hein, et d'autres personnes aussi, je pense, à partager l'expérience du chauffage solaire. Donc, s'il y a parmi les auditeurs des gens qui sont intéressés pour voir, hein, pour discuter, etc., pour échanger... Moi, je suis à leur disposition. Hein. Je ne dis pas que j'ai que ça à faire, mais c'est avec plaisir. Et c'est tellement important que c'est avec plaisir que je partagerai du temps pour ça. Et donc, peut-être le mieux, c'est de contacter FNE. FNE 04. Hein,
mais un site.
France Nature Environnement a un site qui est bien fait et où on peut rentrer en contact facilement. Donc, mon nom, c'est Gilbert Ferraud, et si les personnes veulent rentrer en contact avec moi pour en parler, c'est avec plaisir. Donc, peut-être on peut dire deux mots de FNE avant de nous quitter.
Oui, disons que je voudrais en profiter pour informer les auditeurs et auditrices que nous avons lancé au niveau national, et ça redescend au niveau départemental, une application qui s'appelle Sentinelle. Il suffit de télécharger sur votre téléphone cette application. Et quand vous voyez quelque chose d'anormal dans la nature ou une décharge sauvage ou n'importe quoi qui peut vous voulez alerter, vous mettez sur cette application. Ça permet de localiser le problème et ça va être envoyé directement soit à FNE PACA, soit à FNE 04 par la suite.
Donc quel type d'alerte ?
Il y a quelque chose d'anormal au niveau de la nature qu'il faut signaler. Et en fait, ça permet de sensibiliser les gens, mais ça permet aussi de les rendre acteurs. C'est important de qu'on puisse devenir tous des sentinelles de la nature. Donc, pour le procédé, c'est qu'une fois que nous, on a cette alerte, je dis nous en tant qu'FNE 04, c'est qu'on va vous donner les moyens et les démarches à suivre pour éventuellement faire remonter l'information soit au maire, soit au préfet. Et puis si vous n'avez pas de réponse, eh bien nous, à ce moment-là, on prendra le relais. Mais c'est surtout pour vous rendre acteur de la situation. Voilà. Donc sinon, surtout, comme disait Gilbert, pour tout renseignement, essayez d'aller sur le site d'FNE 04 et vous aurez un certain nombre de choses, d'informations. Toutes nos actions... Et tous nos projets et tout l'agenda, nos futures, manifestations où vous pouvez nous rencontrer.
Et n'oubliez pas que donc, nous mettons des liens sur le site de Fréquence Magistrale, des liens qui peuvent vous être utiles au niveau du chauffage solaire.
Moi, ce que je voudrais aussi éventuellement profiter, c'est que si des personnes veulent venir en tant que bénévoles, ou éventuellement en tant qu'administrateur, ils seront les bienvenus. Voilà.
Donc toujours besoin de bénévoles à France Nature Environnement aussi. Voilà. Merci François Stellier et Gilbert Ferraud. Et puis donc cette émission sera en ligne dans la journée et rediffusée quelques fois sur notre antenne. Merci beaucoup, bonne journée et j'espère que les auditeurs auront été sensibilisés à l'importance de revoir l'énergie solaire économique et écologique.
Merci. Merci à vous.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir. Au revoir. Thank you.